Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les Immanquables.
Et Rémi, nous allons commencer avec le prix du jour.
Oui, jusqu'à dimanche, avec la grève des contrôleurs de la SNCF, seuls 4 trains sur 10 sont en circulation. On parle des TGV et des intercités. Les chefs de bord réclament une hausse de salaire notamment. Et face à cela, les voyageurs, ils ont deux solutions. Soit se faire rembourser.
Soit rester chez eux.
Soit essayer de changer de train pour un prix beaucoup plus élevé. Parce qu'avec la grève, malgré la grève, il y a moins de trains certes, mais le système de tarification, lui, ne change pas. C'est bien l'offre et la demande qui déterminent le prix d'un billet, moins de trains, beaucoup de demandes, et bien les prix explosent et certains clients de la SNCF sur les réseaux sociaux dénoncent cette situation et accusent la SNCF de se gaver sur leur dos.
Et bientôt, ils pourront même plus prendre l'avion pour comme alternative. Perico, les gars, ça vous choque, ça ?
Qu'ils fassent grève ?
Non.
Le prix
en fait, c'est la double peine, quoi, pour les gens qui voyagent. C'est-à-dire que les gens qui devaient partir là, leur train a été annulé ou supprimé, et deux, ils veulent en reprendre un autre et ça coûte 10 fois plus cher.
Ce qui me choque, c'est que je discute souvent avec
eux. On devrait au moins remplacer leur billet.
Les contrôleurs, je discute souvent avec eux. Ils conviennent que c'est hors de prix et qu'ils appliquent souvent des sanctions et des tarifs. Vous n'avez pas de billet de train. Vous montez dans le train quand même. Vous avez le billet de bord avec la pénalité, alors que vous n'avez même pas de siège. J'aurais apprécié, puisqu'ils faisaient un geste, qu'ils fassent une grève, c'est-à-dire on fait pas grève mais on contrôle pas.
Exactement. Voilà. Ce qu'ils ont déjà fait.
Et là, ils ont carrément dit on n'y va pas. Donc ils savent qu'ils allaient bloquer les trains. Alors qu'ils auraient pu maintenir le voyage, ils pénalisaient le patron.
Exactement.
Avec un manque à gagner épouvantable, mais on contrôle pas. Ça veut dire que tout le monde aurait pris, sauf quand elle contrôle le départ, mais les autres gares. Voilà. Et ça, j'aurais apprécié.
Moi, je serais parti en week-end si j'avais fait ça.
Ah ben moi, tout de suite. J'aurais fait 4 fois le voyage pour rien.
Le problème, c'est les gares parisiennes et les grandes gares où effectivement elles contrôlent au départ, mais dans les gares intermédiaires comme Dijon, t'as pas le contrôle.
Ils pouvaient aussi, comme c'est eux qui contrôlent.
Je peux vous dire que moi, ça m'a coûté pour venir aujourd'hui. Déjà, trouver un train.
Là, j'ai pas compris.
Et puis surtout, repartir ce soir. Et je voyais tous les TGV pour Dijon qui s'annulaient. Je vais être obligée de rentrer à 23h.
Est-ce que t'as payé plus cher que ton billet initial ?
En fait, ça allait. Comme ils ont laissé que 2 TGV pour rentrer à Dijon ce soir, les gens se sont rués dessus. Et je préviens la comptabilité d'RMC que j'ai touché de prendre une place en première classe. Excusez-moi.
Là, c'est l'offre à la demande.
Mais j'ai pas eu le choix. Il y a que 2 TGV qui partent. C'est des gens qui vont rester à quai. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une place. Et jusqu'au bout, je me suis demandé si j'allais appeler notre Paul, qui est aussi notre rédacteur en chef, en disant Paul, je peux pas venir, quoi. Et donc là, je m'en suis sortie. Et oui, est-ce que c'était plus cher ? Pas sur mon trajet à moi, mais j'en ai entendu parler sur d'autres trajets.
Mais c'est quand même hallucinant, c'est qu'on supprime. On te supprime ton train et derrière on te fait repayer plus cher.
Mais le problème,
c'est quand même. Excusez-moi, mais il y a un truc qui ne va pas, quoi.
De toute façon, avec la SNCF, il y a un truc qui ne va pas.
Ça fait la main de Paul.
En revanche, du point de vue des contrôleurs, moi je comprends tout à fait qu'ils continuent de contrôler parce que comme ça, du coup, les gens râlent. Ce qu'on est en train de faire ici, et du coup, on parle encore plus de leur mouvement. Parce que s'ils avaient fait comme Perico avait dit, on laisse ouvert à tout le monde,
c'est
interdit, de toute façon, c'est illégal.
Oui, alors ça aurait été populaire.
C'est illégal. Ils le disent pas.
Non, ils le disent pas, s'ils n'en disent rien.
Mais non,
c'est-à-dire.
Mais parce qu'ils ont un certain nombre de contrôles à effectuer chaque journée de travail, et s'ils en font aucun dans la journée, c'est illégal.
Non, je pense pas que ce soit pour ça, c'est pour une histoire d'assurance. Parce que le billet t'assure aussi. Si t'as un problème, t'es assuré par le billet, c'est pour ça.
Un contrôleur qui ne contrôlerait pas et qui refuserait il peut être licencié pour ces raisons.
Non, mais il peut être en grève, mais ne pas contrôler, tu vois ce que je veux dire?
En revanche, je pense que potentiellement ça pourrait être une grève populaire, ce qui est rarement le cas à la SNCF, parce que c'est vrai que les conditions de travail chez les contrôleurs, personne n'en veut. Ce matin, j'en entendais un sur RMC, il dit une nuit sur deux, il dort pas chez lui. Déjà, c'est ça. En plus, on se tape quand même tous les gars. On a tous vu déjà des mecs bourrés, violents, qui insultent le contrôleur dans des trains, et c'est eux qui se les tapent.
Ils assurent une certaine sécurité.
Et c'est là où nous,
ils
font un métier difficile, pas très bien payé, ils dorment mal chez eux, donc évidemment on les soutient. Après, c'est sûr que c'est insupportable si on doit payer 300 euros.
Moi, je sais pas toi qui prends le train beaucoup aussi, mais moi les contrôleurs, mais ils sont adorables. Mais vraiment, depuis des années,
ça va
ils m'ont dépatouillé. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je suis
ça
complètement d'accord.
Depuis quelques années.
Il y a 20 ans, ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, je les trouve
les deux,
adorables. Ils ont de l'humour en plus quand ils font leurs annonces.
Et t'as le flic qui sac.
Oh, t'en auras toujours un. Dans tous les métiers, là, on enfonce des portes ouvertes. La hausse du jour.
Après la flambée des prix du carburant, tiens, voilà celle des péages. Les sociétés d'autoroute vont augmenter les tarifs de péage de 4,75% en moyenne au 1er février prochain, confirmation faite ce matin par le ministre des Transports. Les hausses varient entre 4,5% et 5,07% selon les axes, largement en dessous de l'inflation de référence, qui est de 6,33% selon une source proche d'un concessionnaire autoroutier.
Mais je crois que les sociétés d'autoroute se sont gavées largement au-dessus de l'indice de référence
des prix.
C'est hallucinant.
C'est un scandale d'État. elles devaient à un moment donné restituer leurs droits. Monsieur Jospin et Monsieur Villepin, gauche et droite, ont donné ce qui est un trésor de la République, un cadeau magistral à sa société qui se gave. Nous continuons à entretenir les voies, bien entendu, et là, ils se permettent, pour leurs actionnaires, d'augmenter, parce que le coût coûte pas plus cher, c'est l'État qui le prend en charge, pour leurs actionnaires, et on dit rien, et ça passe comme une pilule. Voilà. Alors, tout à l'heure, je m'emportais sur le nucléaire que le gouvernement. Là, je dois dire, c'est pas cette majorité-là.
Mais c'est incroyable.
Par contre, elle aurait pu le changer. Ces autoroutes appartiennent. Ah ben, tu nationalises.
Bah oui, tu renationalises.
Applique à vous l'argent.
Applique, mais rien du tout.
Non, c'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros.
Enfin, maintenant, on est capable de le trouver pour faire n'importe quoi.
C'est une spoliation.
Spoliation.
Très bien.
Alors, je vais te dire, il n'y aura aucune plainte et Bruxelles pourra hurler. Non, mais je suis d'accord.
Soit.
Non, mais c'est pas ça.
Si on veut.
Non, mais c'est que c'était à nous au départ.
C'est de la spoliation. Après, va dire aux
investisseurs de venir en France. Non, ils nous ont spolié. Ils nous ont spolié.
Non, non, non.
On s'est bradé. Alors, on s'est laissé spolier.
On a bradé les autoroutes aux opérateurs privés.
C'est un scandale d'État permanent. Il y a des coups d'État permanents, ça c'est le scandale d'État permanent.
Ça vous scandalise, vous Benjamin Muller, voilà, la hausse du prix des péages?
Oui, et surtout on se demande comment on voyage maintenant. Parce que c'est de ce dont on parle depuis midi, en fait, c'est ça.
Il n'y a plus de court-courrier.
Ah, c'est vrai. Paris, non, mais entre ça, le prix de l'essence, parce que
le prix du billet d'autoroute maintenant, le prix
du billet de train qui est hors de prix, bon, surtout si on doit changer de billet. Le prix de l'essence, on en parle un peu moins. Enfin, ça reste très élevé, hein, quand même.
Je suis à plus de 2 euros, moi.
Ouais, c'est ça. Là, on est à 2 euros là, à Paris. Et on en parle bizarrement moins, alors que ça reste très cher.
Après, donc, Rémi est à 1,75, donc voilà.
Et moi, je suis à 1,80.
Enfin, ça reste même cher.
Ça reste hyper cher.
Et du coup, je me demande si dans l'avenir, on va même. Je ne parle même pas de raisons écologiques, juste pour des histoires d'argent. Avant de partir en week-end, je veux dire, là où on réfléchissait peut-être moins il y a quelques années, maintenant c'est vraiment c'est un budget, c'est colossal. En fait, que ce soit en train.
Non, on va rester confinés chez nous au rythme, ça va.
Oui. Et alors après, il y a le petit charme des routes départementales. Si je peux deux petites secondes être léger, si ça existe.
Non.
Le sud, quand vous prenez la. Rappelez-moi la nationale 7. La nationale 7.
La nationale 7, elle va jusqu'en banlieue parisienne. C'est pas toujours une partie de plaisir, c'est un enfer.
Tout le réseau secondaire est merveilleux.
C'est des magasins ignobles.
Oui, mais c'est charmant, c'est Émilie.
Ah non, c'est pas charmant.
C'est Jean-Pierre Pernaut. C'est la France qu'on aime aussi.
On parle pas en banlieue parisienne, je peux vous dire.
Non, la banlieue parisienne, quand vous sortez de Melun, c'est pas forcément le plus charmant. Non. Mais quand vous traversez la France par ces petites routes, vous menez un peu plus de temps, mais oui, vous donnez du temps au temps.
Il vous faut un week-end de 7 jours, quoi.
Non, c'est pas pour les vacances, pour les départs en vacances.
Mais c'est pas le même combat. Là, c'est Estelle dit se rendre quelque part. Je suis totalement favorable au réseau secondaire, mais.
Mais je suis d'accord que l'autoroute, c'est hors de prix. Autoroute plus essence, c'est des budgets colossaux.
Mais en fait, on se dit, Emmanuel, on va devoir rester chez nous.
Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission. Quand je fais, comme on se connaît pas avec Benjamin, donc j'habite dans un petit village à 30 minutes de Dijon. Quand mes jumeaux qui ont 16 ans.
Hein, c'était 25 minutes.
Ça dépend de combien je roule. En fait, moi, je roule déjà à 110 depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais les garçons, quand ils veulent aller voir des amis le week-end, il y a des fois, je dis non. Je dis, tu prends, qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un épisode. Crise de rire sur le plateau, j'ai raté un épisode.
Je roule à 110 depuis la guerre en Ukraine. Excusez-moi, ça m'a.
Je pensais que c'était ton électricité qui était en 110. C'est un test, d'accord.
Toujours est-il que les garçons ont réfléchi à deux fois comment on s'organise pour les amener voir leurs amis en week-end à Dijon. Et la plupart du temps, c'est tu prends le bus, tu prends le transco, tu prends le voilà.
Oui, ils prennent pas l'autoroute puisqu'ils sont.
Non, mais je veux dire, je ne fais pas forcément le trajet, je ne fais plus les trajets, c'est ça que je veux dire.
Le chantier du jour.
Ça va vous agacer, ça. Au Grand Bornand, en Haute-Savoie, le Grand Bornand, où doit se dérouler du 15 au 18 décembre prochain une étape de la Coupe du Monde de biathlon. Problème ?
J'adore le biathlon.
Il n'y a pas de neige.
Oui, c'est embêtant.
Et donc, depuis de lundi jusqu'à hier, il y a eu un balai incessant d'une douzaine de véhicules, va-et-vient, entre les points de stockage de neige de la commune, donc neige artificielle, et la piste du stade. Ça a duré du matin jusqu'au soir. Et bonne nouvelle, il y a de la neige artificielle. La compétition pourra avoir lieu.
Ah, bah super.
12 000 mètres cubes de neige artificielle.
Ah, Emmanuel,
ça va être de plus en plus. Hein. Ça va être alors moi, j'adore le biathlon. C'est vraiment une activité.
D'accord, toi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que moi, c'est pas le mini-bar et mon avion.
C'est un énorme problème.
Non, mais
j'adore. Je dis juste que c'est pas contre le biathlon ce que je vais te dire, puisque c'est un sport que j'adore et que j'ai eu l'occasion de faire. Mais cela dit, non, évidemment que c'est intolérable ce que Rémi est en train de nous dire pour le Grand Bornand. Mais c'est, en fait, on va faire ça de plus en plus, en réalité. Là, c'est une première fois, ça nous choque et ça va arriver. Puis au bout d'un moment, il y a des choses qu'on sera obligé d'arrêter.
Excusez-moi, il y a des stations là. Alors, moi, j'adore le biathlon, évidemment. En plus, je viens de la chaîne L'Équipe, donc si vous voulez, c'est le sport phare. Et j'aurai énormément de plaisir à voir cette première étape du biathlon. Mais sauf que là, aujourd'hui, vous avez les stations de ski qui démantèlent, je veux dire, les télésièges, parce qu'elles disent, de toute façon, il y a quasiment plus de neige, il n'y en aura plus l'année d'après, etc. Donc, on va vivre autrement. Je suis désolée, mais le monde d'après, c'est pas d'amener des camions de neige au Grand Bordant.
Mais je suis complètement d'accord.
Il y en a d'autres qui font d'autres
choix. Et là, vous me dites, j'aime bien le biathlon.
Non, c'est juste pour dire qu'on m'accuse pas de pas aimer le sport, etc. Mais je suis complètement vent debout contre ce que nous annonce Rémi. Et pour autant, voilà, moi, j'aime le biathlon. Il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer. C'est ça que j'ai en train de dire. Et j'avais déjà dit ici dans cette émission que nous, on arrêtait le ski. Alors que mon homme et ses enfants, ils sont tous fanatiques de ski. On a décidé qu'on arrêtait le ski. Pour deux raisons, très clairement économique, parce que ça coûte une blinde. Et la deuxième, à 50%, écologique aussi. On s'est dit, on va plus au ski. Alors qu'eux, ils adorent ça. Moi, je peux m'en passer.
T'as de la vraie neige,
Mais
là, pour le coup, enfin, on peut aussi se dire que tant pis pour cette étape du Grand Bordelais.
Exactement.
Et puis, soit on passera à la deuxième, soit le Grand Bordelais, tu l'as fait plus tard, soit tu décales,
soit tu fais ailleurs.
On ira faire de la luche sur les terrils du Nord. Et on est comme
non, mais on a tellement critiqué, critiqué les Jeux Olympiques où on était sur neige artificielle, où il n'y avait pas de neige. On a critiqué tout le monde. On a donné des leçons à tout le monde. Et finalement, nous, on fait la même chose. Ça me choque, en fait.
Oui, c'est vrai. C'est à notre échelle, beaucoup plus petite échelle, mais c'est vrai qu'on donne des leçons au Qatar à juste titre parce qu'ils foutent de la clim dans des stades. Les jeux, comment c'est les jeux asiatiques là qui vont être organisés où là ça va coûter un fric phénoménal. Effectivement,
on
marche sur la tête, mais c'est vrai que nous les Français on donne des leçons à tout le monde, à de petite échelle il fallait annuler en fait tout simplement. Mais ça demande du courage politique.
Et pourquoi ils annulent pas?
Il y a des investissements.
Ils annulent pas parce que c'est l'étape de Coupe du Monde de biathlon, c'est hyper prestigieux pour la commune, c'est des retombées incroyables. C'est aussi la chaîne équipe qui fait ses meilleures audiences de l'année sur le biathlon, mais c'est pas que ça, mais c'est devenu un sport super populaire. Et je veux dire, et tout le monde l'attend, et donc en fait c'est les retombées économiques, elles sont monstrueuses. Et quand je dis on pourrait le décaler dans la saison, en fait non, bien sûr que non, tu peux pas le décaler dans la saison. Donc si tu la fais pas là, ton étape, tu la fais jamais, et donc c'est un énorme manque à gagner. J'imagine que tu vas avoir des assurances également,
faudrait pouvoir changer de lieu au dernier moment, j'imagine que ça se fait pas si facilement, mais en tout cas réfléchir à de manière autre qu'un camion qui va vous amener votre fausse neige.
Après parfois il y a eu du brouillard sur les étapes de biathlon, les avons été reportées d'une journée, etc. mais là manifestement, si ça avait été une journée, ça aurait pu être reporté, mais j'imagine que c'est beaucoup plus que ça. Et puis derrière, t'as la deuxième étape et la troisième, donc en fait, ça c'est un jeu de domino. Donc c'était compliqué, mais c'est vrai que voilà, on demande à tout le monde de faire des efforts, et quand on voit ça, t'as envie de chauffer à 22 dans ton appartement, quoi. Le rendez-vous du jour.
Oui, le Téléthon débute aujourd'hui, il durera jusqu'à demain. Après deux années de pandémie, dans un contexte difficile pour les Français avec l'inflation, la FM Téléthon espère faire au moins aussi bien qu'en 2021. 86 millions d'euros avaient été récolté l'an passé, et comme chaque année, il n'y a qu'un seul numéro pour faire un don, c'est le 36 37.
Et franchement, c'est un rendez-vous très important parce qu'il y a beaucoup d'espoir, hein, voilà, ces dernières années avec la recherche et tous les dons faits au Téléthon. Mais là, on peut un peu s'inquiéter, Emmanuel Dancourt, parce que c'est vrai que les Français n'ont pas forcément la tête à ça. C'est vrai que l'inflation a énormément augmenté, et on se dit que là, il risque d'y avoir un problème pour les dons cette année.
Ce dont on s'est rendu compte en termes de dons, c'est que les gens, d'une manière générale, donnent moins, mais ceux qui donnent plus, en fait. Donc, ils s'y retrouvent. En réalité, ça n'a pas tant changé que ça, parce que ceux qui peuvent donner, ils ont donné plus pour combler ceux qui ont arrêté de donner, parce que là, ils n'y arrivent plus. Honnêtement, ils n'y arrivent plus, et à un moment, on n'a pas le choix. Il faut se centrer sur son budget familial, donc il ne faut pas leur taper dessus à ces gens-là. Ils reviendront dès que ça ira mieux, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a dans le cœur, tout simplement. Et bien sûr qu'il faut donner au Téléthon. Je crois que c'est Kev Adams qui parraine cette année. C'est le plus jeune parrain du Téléthon.
Ce qui est une très bonne idée pour rajeunir sans doute le public devant France.
Un peu l'audience aussi.
Il faut rappeler pour ceux qui peuvent le faire, évidemment, et pour ceux qui paient des revenus, qui a un abattement fiscal. C'est-à-dire que si vous donnez 30 euros, c'est 60% d'abattement fiscal.
La loi Coluche.
Quand tu donnes 100 euros, en fait, on prend 66. Mais c'est important. Et puis en plus, tout ce qui est donné au Téléthon, c'est pour la recherche, mais sur de très très nombreuses maladies, pas uniquement ces maladies génétiques. Il faut s'inquiéter pour justement la hauteur des dons cette année, Benjamin.
Oui, il faut s'inquiéter sur la hauteur des dons, même si c'est vrai qu'il y a des micro-dons possibles. Oui. Et qui continue d'exister, ce qui est très intéressant.
Par SMS
notamment. vous savez aussi, dans les caisses, vous savez, quand vous allez acheter, vous avez pour 65 euros, 66, et ça vous propose d'arrondir au truc supérieur. Alors, ce qui est une manière pour l'État de ne pas récupérer justement les petits dons d'impôts, mais qui est une manière un peu indolore de faire des micro-dons, ne pas hésiter. Ce qui est toujours très bien fait, moi, je trouve, pendant le Téléthon, c'est qu'ils expliquent bien que chaque euro est utilisé, et ils nous montrent aussi d'où on vient. Et les progrès qui sont faits, je ne suis pas généticien, mais les progrès, quand on les écoute, c'est extraordinaire ce qui a été fait en 37 ans. Je crois. Donc en fait, j'ai toujours tendance à penser que cette émission va permettre de lever des fonds de gens qui n'auraient pas forcément prévu de donner. Mais quand on voit une histoire d'un gamin qui a été sauvé, on se dit ok, je donne. Évidemment. C'est hyper important.
On va terminer avec le rongeur du jour.
Allez, alors que plusieurs témoignages soulignent une prolifération des rats dans les rues de Bordeaux, la municipalité écologiste met en avant l'utilité de l'animal. Et le moins que l'on puisse dire,
bien sûr,
c'est que l'équipe n'y va pas de main morte. Les rats sont indispensables dans les villes. Et c'est Jean-Baptiste Tony, conseiller municipal en charge de la propreté, il bien le sûr. Dit dans le Figaro, et de poursuivre en estimant ne pas être en capacité de dire s'il y a plus ou moins de rats à Bordeaux qu'avant.
Perico, je vais vous laisser terminer, reste 20 secondes.
Non, mais à Paris, on les appelle les surmulots parce qu'il ne faut pas utiliser le mot rat. Donc là, Bordeaux, ils ont un train de retard. Et puis, et puis les poulets, les insectes, la vérole, tout ça, c'est la nature. Donc c'est formidable.
C'est génial.
N'est-ce pas ? Comment expliquer qu'un fléau consécutif de la démission politique ou d'une idéologie assassine est devenu un bienfait public ? Voilà, on est dans le néo-stalinisme, mais on. Ça va arriver très vite. Là, on est aux prémices verbaux. On est aux prémices dialectiques. Ensuite, ils vont passer à l'acte. Il y aura des camps de réinsertion. Pour les gens qui trouveront que les rats ne sont pas gentils.
Je savais que je pouvais compter sur vous.
On en reparle.
Bien sûr qu'on va en reparler, Perico Légas.